tech de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Braza.
Eh bien, bonjour, 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 mon cher Robertito.
Bonjour, bonjour, bon dimanche au Doigt Manou, bon dimanche à toutes et à tous.
Comme d'habitude, ce dimanche-là, nous sommes évidemment heureux de passer deux heures, mais vraiment dans la musique de notre continent que, malgré tout, on adore.
Qui est très agité entre échéances électorales, le scrutin avec des suites pas très 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 terribles, pas comme on les aime, mais l'Afrique continue en dentée.
Ouais, alors, ouais, comme tu dis, oui. Mais tu as remarqué que les élections, il n'y a qu'à ce moment-là qu'on parle beaucoup d'Afrique, quand il y a des... Et ma foi, ça se suit, ça se ressemble pas, mais ça va dans le même sens, et ça... J'ai jamais vu une élection où on n'a pas... des problèmes,
oui, il faut toujours que ce soit
de mise en place, tu vois.
Alors il y a des endroits où il n'y a pas d'élection, mais où on ne sait plus à quel sein se vouer. C'est le cas de nos amis au Venezuela. C'est toujours, c'est toujours ce face à face.
Oui, pour l'instant, c'est du mono. On entend qu'un côté, on n'entend pas de l'autre côté. Alors l'autre côté, je suis sûr que eux aussi sont sûrs. Enfin, tout le monde est sûr de gagner quoi. Gagner quoi, on ne sait pas. Pour l'instant, bon, c'est la diète pour les pauvres Vénézuéliens, parce que c'est eux qui payent. Bon, voilà, donc il y a l'Occident d'un côté, il y a naturellement la Russie de l'autre côté, et puis des gens à l'intérieur qui ont faim. Mais enfin, bon, nous, ça ne nous regarde pas. Nous sommes là pour parcourir encore, comme j'ai dit tout à l'heure, notre continent musicalement. Ça s'adresse évidemment aux papis.
Aux mamies, aux papas, aux mamans, sans oublier la progéniture.
Alors vous savez très bien que la première heure, c'est toujours « Il était une fois ».
Il était une fois, ou alors « Once upon a time » si on se met de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, on est riche, on a un minimum bilingue. Enfin, il faut ajouter tout de même le côté lusophone. Et dans ce sens-là, nous sommes désolés de ce qui arrive en ce moment au Mozambique. Hein.
C'est terrible, une succession avec ces ouragans, ces inondations. Et il faut dire une aide humanitaire comme à Haïti, dont on ne sait pas par quel canot elle passe.
Les deux, d'ailleurs, on ne sait pas. Pourtant, ça coule. Ça coule, mais ça s'arrête quelque part et on ne sait pas où ça s'arrête. Quand on parle de tous ces gens qui sont soi-disant dans des hauts postes, mais qui ne connaissent pas le mot honnêteté, on peut se poser des questions quand même. On peut même poser des questions au bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Où est l'honnêteté? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a vraiment la malhonnêteté et en face l'honnêteté? On peut se poser des questions quand même. Quand on se rend compte que partout où c'est sombre, il y a toujours des problèmes.
Eh oui, toujours des problèmes, toujours des troubles, comme l'aura chanté celui dont on va évoquer la destinée aujourd'hui et dont l'existence et la mémoire riment avec le mois de mai.
Voilà, mais je connais au moins un deuxième Robert. Hein.
Avec moins de cheveux.
Oui, mais l'autre avait tellement de cheveux supplémentaires qu'on a finalement on a coupé tout court, on a appelé Bob.
Bob, comme Robert Nesta Marley, incroyable histoire de Manou que l'on va raconter aujourd'hui. Mais François nous fait signe qu'il faut passer par notre mesure réglementaire.
Ben oui, on a faim, alors il donne à manger cette mesure-là.
Le dimanche, c'est Manu Dibango
sur Africa Radio.
Africa Radio, et en ce 19 mai, eh bien, nous faisons écho à ce qui s'est déroulé il y a une huitaine de jours, Doyen Manu, c'est-à-dire la célébration d'un certain Robert Nesta Marley.
Oui, ça fait déjà un petit bout de temps qu'il est là-haut en train de faire les bœufs avec tout ce que nous aimons.
Oui.
Et ça passe tellement vite. Tu sais, alors moi j'ai eu plus de chance que toi. Toi tu en parles, tu le joues. Mais moi physiquement je l'ai connu, je lui ai serré la main, on a discuté pendant pratiquement un mois où je suis resté chez lui à la Jamaïque, quand j'ai fait Manu à la Jamaïque. Le studio, le Dynamic Sound était sur la route de sa propriété. Alors je m'arrêtais tous les matins pour lui donner un petit bonjour quand il était là, parce que bon, naturellement, il voyageait aussi. Enfin, quand il était là, il n'était pas dans la maison, il était dans son minibus.
Ouais, il y a d'ailleurs une photo où vous bavardez voilà. Dans le minibus. Bon, il avait l'air toujours très cool, hein, on va le dire comme ça.
Ouais, mais c'est là où il recevait, en fait. Hein. C'est Branson qui s'appelle, là, le gars de Virgin, et il a un bateau, là, sur la Tamise.
Oui, Richard Branson.
Voilà, c'est là où il y a son bureau, tu vois. Il reçoit tout le monde.
C'est plutôt tranquille.
Ça fait pas de vague, quoi. Eh bien, c'était un grand monsieur qui était très curieux des choses africaines, évidemment. Et comme j'ai été l'un des... En réalité, ouais, j'ai été l'un des premiers Africains musiciens à passer un bon moment là-bas avec des musiciens à eux, c'est-à-dire les Sly Dunbar, les Ruby Shakespeare, tout ça. Vraiment, la crème du fondement du reggae, quoi. Donc, tout le monde gravitait aussi autour de lui. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de le connaître et de discuter avec lui. Mais là, bon, il s'agit pas de moi, il s'agit de lui et d'un portrait que tu as tracé.
Eh oui, Don Emmanuel, et pour une fois, contrairement aux années précédentes, on va prendre notre temps et on va consacrer les deux parties de notre émission à Robert Nesta, Bob Marley, parce que finalement, la discographie est tellement, tellement dense qu'on la redécouvre sous un angle différent chaque année.
Oui, parce que bon, on connaît toujours les phases essentielles. On ne sait jamais ce qui s'est fait avant. Jusqu'au moment où tu as un succès, ta vie pour le public commence à partir du succès. Mais tout ce que tu as fait avant, bon, il y a la chance. Ce que peut-être quelques connaisseurs te connaissaient, mais ils n'étaient pas nombreux à cette époque-là. Mais la majorité ne savait pas ce que tu as fait avant ton tube. Et aussitôt qu'il a fait son tube, sa vie a commencé, sa vie publique, la vie nationale et la vie internationale. Maintenant, on se rend compte que avant ça, il y a eu je sais pas combien de disques qu'il a fait avant. Hein.
Et oui, parce qu'avant la période mais glorieuse avec le look tel qu'on l'a toujours imaginé, les Logs et le reste, il y a eu ce Robert Nesta Marley mais qui a croisé le chemin de la musique, on va dire, d'abord au moment des années 60, parce que lui qui est un fils d'ailleurs d'un officier de la marine britannique qui le reconnaîtra pas et d'une afro-descendante, eh bien, il se cherche et il chasse un petit peu le spleen qu'il a intérieurement en poussant la chansonnette. Alors, il a un look un peu comme les groupes de la Motown. Il est d'abord oui, un peu cravate, oui. Costume, cheveux courts. Il y a déjà du gospel, il y a un petit peu tous les rythmes qui sont là-bas du côté de chez lui, à 9 Miles où il est né en Jamaïque. Mais il cherche une voie, une troisième voie.
Ouais, ils sont quand même voisins, tu vois. Et en général, les Américains, ils vont là-bas, c'est tropical pour eux, c'est exotique, quoi, comme les Bahamas et tout ça. D'un côté, et puis de l'autre côté, ils avaient aussi Cuba, hein, pour se reposer. Ils avaient quand même toutes les îles autour d'eux où ils pouvaient passer leurs vacances et s'amuser et tout ça. Et donc, lui, il a eu une enfance pratiquement mi-orpheline. Hein. Si on pouvait parler de cette époque-là, de beaucoup d'Occidentaux qui ont laissé des enfants, soit en Afrique, soit dans les îles, qui sont partis, qui sont défilés, en fait, tout simplement, parce que les couleurs, l'amour, c'est une chose, le désir, c'est une chose, le sexe, c'est une chose, et puis après, il y a des résultats, alors on les accepte ou on les accepte pas. Dans son cas, on n'a pas accepté. Mais c'était quand même un être humain qui devait faire son chemin avec sa maman.
Oui, et c'est pas dans des conditions faciles, parce qu'il y a ce fameux ghetto de Kingston où il se dit livré à lui-même, Don Emmanuel, et c'est vrai que la musique a un peu une sorte de fidèle compagnon, et ça va aller très vite pour lui, parce que dès l'âge de 17 ans, il enregistre déjà un premier titre, même si ça n'a pas le succès qu'il attend.
Ben, c'est-à-dire il devait être débrouillard, parce que pour arriver à enregistrer à l'âge de 17 ans, dans ces conditions-là où on sait que c'est la survie permanente dans ces coins-là. Donc il s'en est sorti déjà, vivant, de ce ghetto, parce que le coup de feu était facile, le coup de couteau, idem. Il s'est sorti de ça et la musique l'a sauvé, parce que malgré tout, il a pu trouver une maison de disques pour pouvoir enregistrer un disque. Puis deux, puis trois, puis quatre, ainsi de suite. Donc, il avait un destin qui était tout tracé. Il fallait juste qu'il mette le curseur au bon endroit.
Et au bon endroit, ça veut dire aussi composer avec le métier à la ville, parce qu'on ne le sait pas beaucoup, mais tu nous avais révélé cela dans une émission précédente. Marlet était d'abord un ouvrier soudeur, c'est-à-dire que il était quand même quelqu'un qui cherchait à ramener un petit peu à la maison, comme il a dit, il fallait qu'il amène un petit peu sa part pour la popote. Ça l'aurait éloigné du côté crime, du côté criminel.
Voilà, il fallait quand même qu'il assure les fins du mois, hein, parce que c'est pas toujours facile quand tu es musicien, 100%. Les fins du mois, c'est aléatoire. Donc, le confort d'abord, un tout petit peu comme Nico d'ailleurs, hein. Nico aussi, il était dans la mécanique. Donc, quand la musique n'allait pas, il y avait sa mécanique qui allait, de façon à quand même avoir toujours quelque chose à mettre sous la dent, quoi. Et lui, c'est pareil, et il écoutait énormément tout ce qui venait des États-Unis, hein. Et je t'avais dit un jour, mais il y a longtemps, l'origine du rythme du reggae, parce que il y a beaucoup de rythmes aux États-Unis, mais il y a un rythme que eux, ils ont adopté, que certains spécialistes connaissent, c'est le shuffle. Tu vois, c'est tum, koutum, 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 et puis avec le soleil, ta, 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 et voilà le reggae qui arrive.
Et ça, c'est l'alchimie magique, Doyen Manou, mais voilà. Ça montre aussi que Marley, il n'a pas été un seul visage, une seule manière dès ses débuts. C'est qu'il écoutait, évidemment, il y avait le gospel du coin. Ça, on peut pas y échapper. Ça se ressentira dans les chœurs des High Trees. Mais il y a surtout le côté, on est avec des amis, on fait un bœuf et on voit ce que ça donne. Et lui, il a quand même deux bons amis, Peter Tosh et Bunny Livingstones, qui,
Pas des inconnus, hein. Parmi les survivants de cette époque-là, de ce ghetto-là, il y avait ces deux-là. Bon, ça faisait un bon trio. Et vraiment, encore que je le répète, hein, on savait pas ce qu'il avait fait avant. C'est quelqu'un qui a écouté et qui a joué énormément de différentes sortes de musique jusqu'au moment où il a trouvé son chemin. Et encore une fois, le grand public ne connaît que le Marlet d'après le premier succès. Évidemment, il a travaillé énormément avant.
Et oui, il aura travaillé et puis il aura côtoyé donc ses deux amis dans les gémisseurs en français de Wailers littéralement. Et ça va être à l'occasion d'un voyage aux États-Unis puisque sa maman sera installée du côté donc du Delaware qui va côtoyer ce mouvement Rastafari. Et oui, ce n'est pas du côté de la Jamaïque et ça va bouleverser l'existence de Marley parce que on est quand même dans des années où le mouvement hippie pointe son nez, mais il y a une réflexion sur la nature et puis sur l'histoire aussi, avec évidemment en ligne de mire l'historique de l'Afrique qui est là, et Marley va vraiment s'en imprégner.
C'est un côté qu'on trouve toujours. En fait, les grandes découvertes, c'est pas là où on est censé les trouver, parce que lui, le reggae, c'est pas à la Jamaïque qu'il a trouvé, c'est aux États-Unis. Et ça arrive que la découverte de ce mouvement-là, en fait, c'est pas chez lui. C'est un peu comme le panafricanisme, c'est forcément pas en Afrique que c'est né.
C'est
né
toujours ailleurs.
À l'extérieur. Donc ce sont des phénomènes comme ça, mais qui deviennent historiques après, parce que faut voir où est-ce que la mèche a été allumée, c'est pas toujours là où on pense, hein.
Et puis surtout que le Delaware, pour quand même être très précis, cet état du nord-est des États-Unis, c'est pas forcément l'état qui est très marrant, certes c'est historiquement démocrate, mais c'est quand même un état où, on va dire, l'histoire n'est pas forcément très très bonne, parce que on parle d'un milieu d'entreprise, c'est assez gris, c'est pas tellement lumineux, mais Marley va en tirer une énergie en rencontrant d'autres sphères musicales, d'autres amis, ouais, et ce côté multicolore.
Voilà, il a dû rencontrer des gens et l'étincelle, c'est là-bas, en fait. Quand on parle de Garvey, là, et tout ça, c'est pas toujours forcément chez lui qui a trouvé ça, et peut-être que son amour pour l'Afrique, c'est peut-être même pas né à la Jamaïque, c'est né précisément dans des rencontres comme ça, improbables.
Et improbable, ce qui n'est pas, c'est le talent évidemment dès le début, parce que quand on plonge dans la première partie du jukebox de Doyen Manou, on se rend compte que, alors il aura certes fait son premier titre en 62, mais professionnellement, c'est vraiment l'opus Catch a Fire en 72 qui va le révéler. Les locks sont encore très courtes, mais on a un son qui est drôlement bien léché, et surtout que tout le monde joue ensemble.
Ouais, mais tu vois que l'année 72, pour beaucoup de gens, c'est vrai que je voudrais voir ce qui s'est passé au début des années 70 pour beaucoup de gens, quoi. Il y a quelque chose dans le ciel ou dans l'atmosphère qui faisait qu'il y avait un type de créativité qui n'existait pas avant pour pas mal de gens, quoi. Donc lui, effectivement, en 72, il a eu une étincelle de génie avec son premier tube, quoi.
Et c'est vrai que dans ce Catch a Fire, il y a des morceaux comme Concrete Jungle. Il parle déjà de cette réalité, une jungle de béton qui a vraiment rien à voir avec celle qu'il a vue en Jamaïque. Il parle aussi de ce monde qui se transforme. Et puis il y a cette reprise. Et oui, parce que personne ne le dit assez, I Shot the Sheriff.
Moi, je l'ai connu, en fait, pas avec No Woman No Cry,
oui,
mais avec I Shot the Sheriff qui a été repris par
d'Eric Clapton. Et il le remet à sa sauce, alors morceau qui revendique déjà bien les choses, hein, parce que l'ordre établi, quand on s'appelle Marley, on n'est pas forcément pour. Disons qu'on se tient très loin de ce qui est un uniforme et qui a un Stetson et ce genre de choses.
Eh ben, quand tu en es déjà à Shot the Sheriff, je veux dire, c'est qu'il y a la revendication l'air. Quelque part, ça n'a rien à voir, mais c'est tout de même la revendication. Nique ta mère, c'est pas mal non plus, quoi.
Ah ben oui, de ce côté-là, voilà, du monde.
Quand on conteste, tout est bon, quoi.
Et d'ailleurs, quand on parle du contexte du ghetto, et ça, c'est vraiment le morceau qui va imprégner tous les fans de Marley, ce No Woman No Cry, qui parle évidemment de cette condition de la femme qui se bat et qui lutte, mais c'est surtout celle qui se retrouve en single-handed mother, c'est-à-dire qui élève ses gamins seul, parce que généralement le monsieur, le papa, est tombé sous les balles ou bien alors a sombré dans le crime.
Ah ouais, souvent, alors même dans les Antilles, dans les Caraïbes, souvent les hommes ils sont là au début de l'action, mais après l'action ils sont plus là, hein.
Aux États-Unis aussi.
Voilà, c'est souvent les mamans qui sont vraiment et maman et papa, hein. C'est, oui. Ça c'est un phénomène courant dans nos pays overseas, quoi.
Et ça, c'est dans l'album Natty Dread qui avait ce No Woman No Cry. Et puis très vite, l'aventure des tournées va commencer. Et c'est vrai que Bob Marley sur scène avec les Wailers, c'est vraiment du feu. C'est l'occasion d'un album épique qui s'appelle Live, qui sort en 75, et où il y a le mythique Tear It Up. Alors où tu le dis, le Don Manu, les instruments sont arrangés par ceux qu'on fume.
c'est un instrument très fumant. Mais faut pas oublier qu'il y avait un producteur quand même qui l'a découvert en route et qui a mis sérieusement toutes les billes sur lui, hein.
Chris Blackwell.
Blackwell qui avait un label
Island,
où était Angélique Kidjo d'ailleurs. Oui, moi-même j'ai eu un disque chez lui, hein, parce que j'ai le disque de Manu à la Jamaïque, en fait, c'est Blackwell. Hein.
Et tu le dis, d'ailleurs, lui, il est très british, hein, Blackwell. Hein,
ouais.
Il est vraiment... Ouais. Il est pas aussi détendu, vaut mieux pour le business que les artistes, mais il a eu le mérite de parier sur Marley.
Il pariait sur beaucoup de gens tout de même. Hein. C'est un monsieur qui était... Bon, il a fini par le cinéma après, il a épousé la première femme de Alain Delon.
Oui, hein. Quand même.
Voilà, donc... Et puis, il venait énormément en France et il avait l'œil et surtout l'oreille. Et aussi l'instinct. Parce qu'il prenait les gens beaucoup plus à l'instinct, en fait, que de connaissance des gens. Et on a quelques-uns à être passés par chez lui, hein, comme ça, ou une conversation à un moment donné, il dit, tiens, voilà, viens. Alors, Marley, il a énormément parié sur... Il a eu raison, quand même.
Et oui, ça a été plutôt bénéfique pour la légende et rentable pour le porte-monnaie.
Là, tout le monde a trouvé son compte, logiquement, hein, parce qu'en fait, tout ce que moi j'ai pu avoir avec ce monsieur-là, il était extrêmement correct. Badarou est passé par là.
Aussi passé par là, c'est vrai. Quand même, le grand Wally,
voilà,
qu'on n'a toujours pas eu au micro, d'ailleurs, s'il nous écoute.
Il est administrateur à la SACEM maintenant, alors il est extrêmement difficile à avoir. De temps en temps, je le vois à la SACEM. Je lui ai déjà proposé, il dit oui, 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 oui. Mais son oui, bon, c'est dans l'espace. Hein. S'il nous entend, si jamais il écoute la radio le dimanche matin, ben, qu'il sache qu'il est « wanted ».
Eh bien, on lui offre d'ailleurs cette première partie de ce jukebox consacré à Bob Marley, et la suite arrive.
Voilà, donc, comme d'habitude, notre cher François va mettre une thune
dans le bastring. Le jukebox de Manu Dibango
avec Robert Tito sur Africa Radio.
Radio.
Manu Dibango
sur Africa Radio.
No woman, no cry. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's
Tech de Mandy Bango
sur Africa Radio.
Sur Africa Radio, 91.1 FM en Abidjan, où évidemment on a célébré, comme il se doit, le mémorial Marley du côté du Parker Place, chez Feu Days Parker Place. Mmh. C'est un endroit, Don Manu, alors, où on écoute de la musique, on se produit en live, mais en même temps, on est très cool, on se rencontre, et puis il y a beaucoup d'objets qui ramènent à la dimension de Marley et du Rastafaris.
Ah, ça, je savais pas. Je connais quelques endroits comme ça au Nigeria où il y a la poésie. Il y a un endroit où on dit la poésie tous les mardis. Une espèce de bistrot pour les connaisseurs. On boit un pot, on discute littérature. Ça existe quand même. Faudrait que les cinéastes, de temps en temps, les reporters, aillent fouiller un peu plus dans nos pays, parce qu'il y a des choses surprenantes, hein. Moi, j'ai reçu un disque d'or, à un moment donné, avec Afrique sans fric, dans cet endroit-là, à Lagos, je sais plus si c'est du côté d'Ikoyi, d'ailleurs, où les gens, tous les mardis, ils se produisaient, ils buvaient un pot et tout ça, et puis, ils déclamaient.
Voilà. Avec toujours dans cet esprit l'idée d'être dans un monde alors qui est vraiment un monde très cool, parce que du côté de Bassam d'ailleurs, sur la route de Bassam, il y a même le village Rasta, alors qui avait été rasé parce que des promoteurs voulaient un petit peu spéculer, mais même s'il a été rasé, les Rastas y sont encore, et tous les week-ends, eh bien, on les entend chanter, ils organisent des choses. Il est pas rare d'y voir Alpha Blondie, Tikenja ou tous les autres.
C'est les parrains, hein, naturels. Il y a un endroit comme ça en Éthiopie, en fait, Selassie leur avait donné carrément du terrain.
Ah ben oui.
J'ai vu ça à la télévision, où ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils font toujours ce qu'ils veulent, malgré tout ce qui s'est passé entre-temps. Je crois qu'on leur a laissé la tranquillité d'esprit pour faire, pour cultiver, pour s'auto-produire dans tous les sens, hein. Et j'ai vu des gens avec leurs enfants et tout ça qui vivent vraiment le pain de terre assez vaste tout de même. Fallait le faire parce que c'est pas évident en Afrique qu'on aime les artistes ou bien un mouvement et que un mouvement qu'on accompagne le mouvement.
Alors tu l'avais vu d'ailleurs aussi à Cotonou où feu le président Mathieu Kérékou avait donné une terre pour les returnees, ceux qui voulaient revenir en Afrique. Oui. Et il y avait cette famille, la famille Dja, qui s'était installée. D'ailleurs, ils ont des écoles, ils ont des champs, ils cultivent. Et ça aussi, c'est au Bénin auquel on pense d'ailleurs, où il y a pas mal de jolies choses.
Oui, comme au Cameroun, à un moment donné, je sais pas ce que c'est devenu, mais enfin, pour les Américains, alors les cousins américains, dont l'ADN plongeait dans des... Parce qu'on parle toujours de Gorée, mais il y a pas eu que Gorée, mais Gorée a été bien présenté, bien vendu. Ceci étant, il y a beaucoup de coins en Afrique où l'esclavage avait ses escales réellement très fortes, quoi. Et donc, le Cameroun, dont on parle très peu, on parle tellement de choses du Cameroun et qu'on oublie ce côté-là. Énormément de Noirs américains se revendiquent même les Spike Lee, tout ça, de venir du Cameroun. Mais il y a eu un mouvement à un moment donné, je ne sais pas ce que c'est devenu, où il semble qu'on leur a donné du terrain, des nationalités qui pouvaient faire des choses au Cameroun. On n'en parle pas beaucoup, mais ça existe.
En tout cas, le pays lié évidemment à la dimension spirituelle de Marley reste l'Éthiopie avec Haïlé Selassie et cette dimension du négus qui est une dimension divine. Alors, ce qui met pas tout le monde forcément d'accord du côté du continent africain.
Non, ça c'est sûr.
Marley, en tout cas, lui, dans son œuvre, exalte la dignité des afrodescendants. Il dénonce le racisme, le colonialisme, le capitalisme et il apparaît, dans ses années 70 comme une sorte d'apôtre de la paix qui a une résonance assez mondiale.
Oui, mais alors ça pouvait pas déranger en Afrique à l'époque parce qu'ils étaient loin de ça, donc les présidents, est-ce qu'ils étaient même au courant du courant reggae, Marley, comme il était que les jeunes aimaient, on ne réfléchissait pas spécialement parce que par le temps qui court en ce moment, je crois que je ne sais pas.
Alors, on pense évidemment à Omar Bongo à l'époque qui avait abrité au Gabon un concert de Marley. Alors, il y a des albums Natty Dread, Exodus en 77, mais il y a surtout ce Rastaman Vibration en 76.
Que tout le monde a chanté, hein.
Ah oui, qui était vraiment exceptionnel. Et puis, l'Exodus, Movement of Dja People, ce peuple de Dja, et l'Exode. Alors, parce qu'il y a aussi des références bibliques, toujours très fortes.
C'est ça, donc en plus c'est un live quelque part à San Barbara, mais c'est l'année, oui, c'est l'année où je l'ai rencontré à Philadelphie avec Stevie Wonder.
Ouais, quelques inconnus.
Voilà, comme ça quoi, il y avait un énorme festival et on s'est tous retrouvés là. C'est la seule fois d'ailleurs que moi je l'ai vu sur scène. Stevie, je l'avais déjà vu, mais c'est la première fois aussi que je jouais parmi ces inconnus-là.
Quelques bons amis qui connaissent forcément ce Rastaman Vibration qu'on va écouter, extrait de l'album du même nom, et puis en live à Santa Barbara, comme tu disais, Doin Manou, Exodus. Alors dans la salle, un nuage quand on voit les images au-dessus de la foule.
Ah bah oui, mais l'un n'allait pas sans l'autre, hein, je veux dire, les Exodus... On consomme ça avec...
Modération.
Voilà.
Ou sans.
Mais ça sent bon.
Le jukebox de Manu Dibango.
Avec Robert Tito. Sur Africa Radio.
Le dimanche, c'est Manu Dibango.
Sur Africa Radio.
Africa Radio.
Movement of Ja People. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alors toi, tu appelles ça, nous on lit les ad-libs sur la pochette de Amanou. Ad libitum, comme
ad libitum,
si,
c'est-à-dire voilà. Sans fin. Il n'y a pas de fin programmée. Ça peut être 3 minutes, ça peut être 4 minutes. Ad libitum, ça dépend de la dimension et de l'épaisseur de la fumée. Hein.
Et lui, donc, en tout cas, on usait beaucoup Marley. Et puis, c'était bien parce qu'on avait du mal à vouloir que le morceau finisse parce qu'il continuait.
Ah, ben, fait là, idem. Hein. Et je crois que là aussi, ça. Tout ça partait en fumée, quoi.
Notre ad libitum, eh bien, il revient juste après une petite page de réclame sur Marley.
Oui, mais pas ad lib.
Thank you.